Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Nous poursuivons les lettres des pères du désert et nous entrons aujourd'hui dans l'œuvre magistrale de Jean Climac, l'échelle sainte, en souvenir de celle de Jacob. Jean Climac a vécu de 575 à 650, comme ermite au Sinaï, et après 40 ans de vie solitaire, il dirige le monastère comme higoumène. Voici les principaux échelons qui permettent à l'homme de s'élever progressivement par le Christ et de rejoindre le Père. Ce sont le renoncement, le détachement, l'exil volontaire, l'obéissance, la pénitence, la pensée de la mort, l'affliction qui produit la joie, l'absence de colère et la douceur, la chasteté, la veille corporelle, le discernement des pensées, des passions et des vertus, le silence et le calme intérieur appelé l'ézikia, la prière, l'impassibilité, ce qui veut dire que possédé par le désir de Dieu, l'homme est détaché des désirs du monde. Et enfin, la foi, l'espérance et la plus grande de toutes, la charité. Du ventre et de la gourmandise. Commençons par ceci. De se mettre bruyant mais méchant, le ventre. La gourmandise est l'hypocrisie du ventre qui, rassasié, se plaint de manquer et rempli à se rompre, crie famine. La gourmandise est un mirage des yeux. Bien que nous ne puissions absorber qu'avec mesure, elle prétend tout engloutir d'un seul coup. La satiété dans la nourriture engendre la fornication. La mortification du ventre procure la chasteté. Qui caresse un lion, souvent l'apprivoise. Qui flatte le corps, le rend encore plus féroce. L'esclave du ventre prémédite avec quel plat il célébrera les fêtes. Le serviteur de Dieu songe aux grâces dont il sera enrichi. La vanité est souvent l'ennemi de la gourmandise et elle se dispute le malheureux moine comme un esclave. L'une le presse de se relâcher tandis que l'autre lui suggère de faire étalage de sa vertu. Le moine sage échappe à l'une et à l'autre, sachant au bon moment repousser l'une par l'autre. Tant que la chair est encore pleine de sève, gardons l'abstinence en tout temps et en tout lieu. Quand elle sera apaisée, mais je ne crois que ce sera avant le tombeau, alors nous pourrons cacher notre activité spirituelle. Si nous examinons la chose, nous remarquons que la plupart des aliments qui provoquent des ballonnements sont également excitants. Domine ton ventre avant qu'il ne te domine, et que tu ne sois contraint de pratiquer l'abstinence avec honte. Ils comprennent ces paroles, ceux qui sont tombés dans le gouffre que la parole ne peut décrire. Mais les eunuques n'en font pas l'expérience. L'intellect de celui qui jeûne prie avec sobriété, mais l'esprit de l'intempérant est rempli d'images impures. La satiété du ventre dessèche les sources des larmes, mais quand celui-ci est desséché, elles jaillissent à flot. Si le ventre connaît la tribulation, le cœur devient humble. S'il est bien soigné, la pensée s'enorgueillit. À présent, parlons du jeûne. Le jeûne est une violence faite à la nature. L'amputation de ce qui flatte le goût. L'extinction du feu de la luxure. Le retranchement des pensées mauvaises. La délivrance des rêves. La pureté de la prière. la lumière de l'âme, la garde de l'intellect, l'affranchissement de l'endurcissement, la porte de la componction, l'humble gémissement, la contrition joyeuse, l'assoupissement de la loquacité, la source de l'ézichia, le gardien de l'obéissance, l'allègement du sommeil, la santé du corps, le protecteur de l'impassibilité des passions, la rémission des péchés, la porte du paradis et ses délices. Demandons donc à cette gourmandise, cette introductrice de toute souillure, qui donc t'a engendré? Quels sont tes rejetons? Qui peut t'écraser? Qui peut définitivement t'anéantir? Dis-nous, ô tyran de tous les mortels, toi qui les as tous achetés avec l'or de l'avidité insatiable, comment as-tu trouvé entrée en nous? Et une fois entrée, qui engendres-tu? Comment en sors-tu et par quel moyen nous débarrasser de toi? Et la gourmandise, importunée par nos injures, frémissant et écumant de rage contre nous, fera cette réponse. Pourquoi m'accabler de reproches, vous qui m'êtes soumis? Et quels efforts faites-vous pour vous séparer de moi? Je suis rivé à vous par la nature même. Et les aliments, de par leur nature même, sont la porte par où je pénètre. L'accoutumance est la cause de mon avidité insatiable. Ce qui me fait devenir une passion, c'est l'habitude invétérée, jointe à la léthargie de l'âme et à l'oubli de la mort. Et pourquoi cherchez-vous à connaître le nom de mes rejetons? Si je les comptais, ils seraient plus nombreux que les grains de sable. Apprenez du moins comment se nomment mes premiers-nés et mes enfants préférés. Mon premier-né est le serviteur de la fornication. Après lui, vient en second l'endurcissement du cœur. Et le troisième est le sommeil. De moi procède une mer de pensées, des flots de souillures, un abîme d'impureté insoupçonnée et innommable. Mes filles sont la paresse, le bavardage, la désinvolture, la plaisanterie, la bouffonnerie, la contradiction, la raideur, l'opiniâtreté, l'insensibilité, la captivité, la suffisance, l'audace et la vantardise, qui entraînent à leur suite l'impureté de la prière, le tourbillon des pensées, et souvent des malheurs soudains et inattendus, auxquels est étroitement lié le désespoir, le plus néfaste de tous mes rejetons. Le souvenir des fautes commises me combat, mais sans me vaincre. La pensée de la mort m'est toujours hostile, mais d'armes qui puisse entièrement affranchir les hommes de mon joug, il n'en est pas. Celui qui a reçu le Consolateur implore son assistance contre moi. Et lui, ainsi invoqué, ne me permet pas d'agir de façon passionnée. Mais ceux qui n'ont pas goûté à sa suavité recherchent inévitablement leur plaisir dans ma douceur. C'est là une victoire qui demande du courage. Celui qui en est capable marche à grands pas vers l'impassibilité et la suprême chasteté.
Thank you.
du sommeil, de la prière et de la psalmodie en communauté. Le sommeil est une certaine réparation des forces de la nature, une image de la mort, l'inactivité des sens. Le sommeil est unique. Mais comme la convoitise, il a diverses raisons. Je veux dire qu'il peut provenir de la nature, de la nourriture, des démons, ou peut-être aussi d'un jeûne extrême et prolongé, après lequel la chair est épuisée et aspire à la consolation du sommeil. La propension à boire avec excès relève d'une habitude prise. Il en va de même de la tendance à beaucoup dormir. C'est pourquoi nous devons nous faire violence sur ce point, surtout dans les débuts de notre renoncement, parce qu'une habitude invétérée est difficile à guérir. De la veille corporelle, de la manière d'obtenir par elle la vigilance spirituelle et comment la pratiquer. L'œil qui ne dort pas purifie l'intellect, mais l'abondance de sommeil rend l'âme insensible. Le moine qui veille est ennemi de la luxure, mais celui qui est somnolent l'a pour compagne. La veille brise les ardeurs de la chair et délivre des songes. C'est un œil plein de larmes, un cœur attendri, la gardienne des pensées, la bonne digestion des aliments, la soumission des passions. Elle met un frein à la langue et chasse les imaginations mauvaises. Le moine qui se prive de sommeil est un pêcheur de pensées. Dans la tranquillité de la nuit, il peut facilement les surveiller et les prendre. Beaucoup de sommeil procure l'oubli, mais la veille purifie la mémoire. Après la prière, sois vigilant, et tu verras survenir des nuées de démons. Nous venons de les combattre, aussi s'efforcent-ils, après la prière, de nous assaillir d'imaginations déplacées. Assieds-toi, sois attentif, et tu verras ceux qui ont l'habitude de ravir les premiers fruits de l'âme. De la pusillanimité puérile et indigne d'un homme. La pusillanimité est une disposition puérile dans une âme qui n'est plus jeune et remplie de vanité. La lâcheté, c'est une défaillance dans la foi qui fait appréhender l'imprévu. La peur, c'est un danger imaginé d'avance. Ou encore, la peur, c'est un sentiment angoissé du cœur, agité et troublé par des malheurs inconnus. La peur est la perte de toute assurance. N'hésite pas à te rendre en pleine nuit dans les lieux où d'habitude tu as peur, Mais si tu te laisses un peu aller à la crainte, cette passion puérile et risible se fortifiera en toi avec l'âge. Pendant que tu es en chemin, arme-toi de la prière. Quand tu es arrivé, étends les mains. Flagelle tes ennemis avec le nom de Jésus, car il n'y a pas d'arme plus puissante au ciel et sur la terre. Quand tu seras guéri de cette maladie, glorifie celui qui t'a délivré. Si tu lui rends grâce, il te protégera toujours. Nous sommes réellement guéris de la pusillanimité, c'est-à-dire de la crainte, quand nous accueillons volontiers, d'un cœur contrit, tous les événements imprévus. Ce n'est ni l'obscurité, ni la solitude des lieux qui donne puissance aux démons contre nous, mais la stérilité de l'âme. D'autre part, Dieu en dispose parfois ainsi pour notre instruction. Sur les inexprimables pensées de blasphème engendrées par l'orgueil. Aucune autre pensée n'est aussi difficile à confesser que celle des blasphèmes. Aussi, certains les laissent-ils vieillir avec eux, mais rien ne donne autant de pouvoir contre nous aux démons et à ces pensées que de les nourrir et de les cacher dans notre cœur sans les avouer. Devant des pensées de blasphème, que nul ne pense qu'il en est la cause, car le Seigneur connaît le secret des cœurs, et il sait que ses paroles et ses idées ne viennent pas de nous, mais de nos ennemis, les démons. L'ivresse fait tituber, et l'orgueil est la cause de ces pensées inconvenantes du blasphème. L'ivrogne n'est pas à blâmer de tituber, mais il sera certainement châtié de s'être enivré. Quand nous sommes à la prière, ces pensées impures et inqualifiables nous assaillent. Mais si nous persévérons jusqu'au bout dans la prière, elles se retirent aussitôt, car elles n'ont pas coutume de combattre ceux qui leur résistent. Cet ennemi impie ne se contente pas de blasphémer Dieu et toutes les choses divines, mais il profère aussi dans notre esprit les paroles les plus honteuses et les plus indécentes, afin de nous faire abandonner la prière ou céder au désespoir. Il en a écarté beaucoup de la prière et il en a éloigné beaucoup des mystères. Ce tyran cruel et inhumain a consumé par le chagrin les corps de certains et il en a épuisé d'autres par le jeûne, ne leur laissant aucun répit. Il en a agi ainsi non seulement envers des séculiers, mais aussi envers des hommes qui menaient la vie monastique, leur suggérant qu'il n'y avait pour eux aucun espoir de salut, et les persuadant qu'ils sont dans un état plus pitoyable et plus misérable que les infidèles et les païens. Celui qui est tourmenté par l'esprit de blasphème et veut en être délivré doit bien comprendre que son âme n'est pas la source de telles pensées, mais qu'elles viennent du démon impur. Lui qui a dit un jour au Seigneur, « Toutes ces choses, je te les donnerai si, te prosternant, tu m'adores. » Ainsi donc, à notre tour, méprisons-le, et sans prêter aucune attention à ses suggestions, disons-lui, « Retire-toi, Satan. J'adorerai le Seigneur mon Dieu, et je ne rendrai un culte qu'à lui seul. Ton travail et tes discours se retourneront contre toi, et tes blasphèmes retomberont sur ta tête. Dès maintenant et dans le monde à venir, amen. » Celui qui veut combattre d'une autre façon que celle-ci, le démon du blasphème, ressemble à un homme qui essaye de retenir un éclair dans ses mains. En effet, comment saisir ou contredire ou combattre ce qui s'engouffre soudain dans le cœur comme le vent, et plus rapide que l'éclair, profère des paroles et s'évanouit aussitôt. Tous les autres ennemis font halte, combattent, s'attardent et laissent du temps à celui qui lutte contre eux, mais non pas celui-ci. À peine est-il apparu qu'il est déjà parti. Vient-il de prononcer une parole que déjà il n'est plus là. Ce démon aime souvent à hanter l'esprit des personnes simples et sans malice, et plus que d'autres, elles sont bouleversées et troublées. Nous pouvons assurer à leur sujet que tout ceci leur arrive, non à cause de leur orgueil, mais de l'envie des démons. Celui qui se trouve enfermé dans sa maison entend les paroles des passants sans se mêler à leur conversation. C'est de la même manière que l'âme recueillie en elle-même, en entendant les blasphèmes du démon, est troublée par ce que dit le démon en passant à travers elle. Celui qui méprise cet ennemi est délivré de la passion du blasphème, mais celui qui prétend le combattre d'une autre manière finira certainement par se laisser dominer. Celui qui veut s'opposer aux esprits avec des paroles ressemble à celui qui prétend mettre le vent sous clé. Un moine fervent, qui était tourmenté par ce démon du blasphème, épuisa sa chair durant 20 ans par les jeûnes et les veilles, mais il n'en tirait aucun profit. Il écrivit alors sa tentation sur un billet, alla trouver un saint homme, le lui remit et se prosternant la face contre terre, n'osant pas lever les yeux vers lui. Le vieillard, l'ayant lu, sourit et relevant le frère, lui dit « Pose ta main sur mon cou, mon fils. » Le frère l'ayant fait, le grand ancien ajouta « Que ce péché soit sur mon cou, frère, aussi longtemps qu'il t'a tourmenté, ou pourrait encore le faire. Mais toi, dorénavant, n'en aie plus aucun souci. » Et ce frère m'assura qu'avant même d'avoir quitté la cellule du vieillard, sa passion avait disparu. C'est celui-là même qui avait éprouvé cette tentation qui me l'a racontée, en rendant grâce à Dieu. Celui qui a remporté la victoire sur cette passion s'est débarrassé de l'orgueil.
Et toi, tu es le Père.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.